VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro. Nous sommes le mardi 3 janvier 2023. Au sommaire de cette édition, les autorités burkinabées exigent que la France remplace son ambassadeur à Ouagadougou. En République démocratique du Congo, le M23 est toujours présent à Kibumba, non loin de la ville de Goma, malgré des promesses de retrait. Le président sénégalais Macky Sall et d'autres voix lancent un appel urgent en faveur d'Haïti.
N'oublions pas Haïti, c'est la première, je dirais, fille de l'Afrique à acquérir son indépendance au prix du sang.
Nous retrouverons Adama Dieng, ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies, dans la partie magazine. Ici aux États-Unis, les Républicains prennent aujourd'hui le contrôle de la Chambre des représentants, mais doivent d'abord surmonter des dissensions dans leur rang autour de l'élection de leur chef. Moscou reconnaît la mort de 63 soldats dans une frappe ukrainienne. À suivre également dans cette session d'information, la Minute Éco, la grand-messe annuelle des technologies et de l'électronique s'ouvre jeudi à Las Vegas. Et le sport, les Brésiliens font leurs adieux aujourd'hui au roi Pelé. Bonjour, bienvenue, on commence par le journal. Au Burkina Faso, les autorités ont demandé le rappel de l'ambassadeur de France dans le pays, Luc Allade. Ouagadougou n'a pas dit ce qui est reproché aux diplomates français, mais l'on sait ces derniers mois que les relations entre la France et le Burkina Faso se sont détériorées. De la capitale burkinabé, la correspondance de Lamine Traoré.
Le diplomate français n'a pas lui encore été déclaré persona non grata comme la désormais coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Burkina, Barbara Manzi, il y a quelques semaines. Ouagadougou demande à Paris pour l'heure de rappeler Luc Allade en poste dans le pays depuis fin 2019. L'information est révélée par la radio locale Radio Omega, qui cite une source au sein du gouvernement. La ministre des Affaires étrangères, Olivia Rouamba, a demandé à Paris un changement d'interlocuteur, selon aussi le journal Jeune Afrique, citant une source française. La chef de la diplomatie burkinabé a déjà adressé à cet effet un courrier fin décembre au Quai d'Orsay, précise le journal. Ouagadougou ne fait aucune précision sur ce qui est reproché à l'ambassadeur Luc Allade. Depuis plusieurs mois, les relations entre Ouagadougou et Paris se sont dégradées. L'ambassade de France dans la capitale burkinabé a été attaquée à deux reprises par des manifestants se réclamant des soutiens du capitaine Ibrahim Traoré. Ces manifestants ont, à chacun des rassemblements, demandé le départ de la France du Burkina et prôné un partenariat avec la Russie. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Dans le nord-ouest du Burkina Faso, les corps de 28 personnes tuées par balle ont été retrouvés dans la ville de Nouna. Une enquête a été ouverte sur les meurtres qui ont été découverts les 30 et 31 décembre, ont indiqué les procureurs dans un communiqué qui n'a fourni aucun détail sur les auteurs possibles ou le motif des attaques. Le Burkina Faso fait face à une violente insurrection djihadiste qui s'est propagée depuis le Mali voisin au cours de la dernière décennie. Des milliers de personnes ont été tuées dans toute la région et des millions de personnes contraintes de fuir leur foyer. Le retrait des rebelles du M23 de Kibumba dans l'est de la République démocratique du Congo n'est pas effectif. Une dizaine de jours après l'annonce de leur départ, le M23 avait en effet accepté le 23 décembre de se retirer de cette localité aux portes de la capitale provinciale Goma. Les détails avec Michel Joseph.
De retour lundi soir à Goma, deux agriculteurs qui ont séjourné depuis samedi à Kibumba centre ont affirmé que les M23 sont encore là, précisant qu'ils ont même construit un centre pour leurs soins médicaux. Un autre habitant a déclaré à l'AFP, ici, dans le groupement de Kibumba et Buhumba, les M23 sont toujours avec nous. Tout comme les militaires de la force est-africaine. Boniface Kagumyo, bourgmestre de la commune de Kibumba, qui vit actuellement dans un camp de déplacés près de Goma, a fait savoir qu'il a quitté sa juridiction. Rébellion Tutsi, vaincue en 2013, le M23 s'est emparé ces derniers mois d'une large portion de territoire du Nord Kivu. La position la plus avancée est à Kibumba, à 20 km de Goma, la capitale provinciale. Le 23 décembre, à la suite d'une rencontre entre les rebelles et les commandants de la force régionale est-africaine, le porte-parole du M23 avait annoncé leur retrait de Kibumba, présenté dans un communiqué comme un geste de bonne volonté fait au nom de la paix. Le lendemain, l'armée congolaise avait qualifié de leurre cette annonce de désengagement. Depuis, aucun mouvement de retrait effectif n'a été signalé.
Le journaliste chroniqueur sénégalais Pape Alé Niang, renvoyé en détention depuis 2 semaines pour des informations de nature à nuire à la défense nationale, est extrêmement éprouvé par sa grève de la faim, a affirmé lundi l'un de ses avocats. L'état de santé du journaliste est devenu préoccupant depuis 5 jours après son refus de suivre le traitement des médecins à l'hôpital principal de Dakar où il avait été évacué le 24 décembre, a indiqué pour sa part la coordination des associations de presse, une confédération syndicale dans un communiqué publié dimanche. Les établissements scolaires des 2 plus grandes villes du Malawi vont rester fermés jusqu'à nouvel ordre en raison de l'aggravation de l'épidémie de choléra qui touche le pays, a annoncé la ministre de la Santé, Kumbize Chiponda. Madame Chiponda a précisé que la rentrée était reportée d'au moins 2 semaines dans la capitale Lilongwe et la ville de Blantyre dans le sud, alors que les élèves devaient reprendre les cours ce mardi au retour des vacances. L'un des plus grand sarcophage pharaonique de bois jamais découvert, sorti illégalement d'Égypte et exposé jusqu'à récemment dans un musée américain, a été rendu lundi au Caire, a annoncé le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry. Le sarcophage au visage peint en verre date de la basse époque pharaonique, il y a près de 2700 ans, et a été découvert dans le centre de l'Égypte.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici, aux États-Unis, le nouveau Congrès, issu des élections de mi-mandat de novembre, sera officiellement installé aujourd'hui. Tous les yeux seront rivés sur la Chambre des représentants où les républicains, qui y sont majoritaires, doivent s'entendre sur un leader, Abdourahman Dia.
Le Californien Kevin McCarthy, qui était chef de la minorité républicaine lors de la précédente législature, essaye jusqu'au dernier moment de convaincre ses critiques dans son parti de lui accorder leur confiance pour qu'il puisse remplacer la démocrate Nancy Pelosi à la tête de cette chambre. Le parti conservateur va prendre le contrôle de la chambre basse, mais devra gérer jusqu'à la dernière minute ses divergences. Kevin McCarthy, qui brigue ce poste, n'a pas le luxe de perdre plus de 4 votes au sein de son parti. Du côté du Sénat, Chuck Schumer devrait rempiler à la tête de cette institution, puisque les démocrates ont réussi à conserver leur courte majorité en remportant même 1 siège de plus. Parmi les grands dossiers qui attendent les nouveaux élus et sénateurs figurent les questions de défense, la sécurité à la frontière et les lois électorales. Ce 118e congrès des États-Unis s'installe au moment où le président Joe Biden devrait très prochainement dire s'il va se présenter ou pas à la présidentielle de 2024, alors que son prédécesseur Donald Trump a annoncé qu'il allait se lancer dans la course. En attendant, il a appelé le congrès à travailler avec lui de façon bipartisane.
La Russie a reconnu hier lundi la mort de 63 de ses soldats en Ukraine, tués dans une frappe ukrainienne en territoire séparatiste dans l'est du pays. Ce sont les plus lourdes pertes en une seule attaque admises par Moscou depuis le début de l'invasion. Les précisions avec Yakuba Ouedraogo.
L'état-major ukrainien a confirmé avoir mené cette frappe, réalisée selon lui avant le 31 décembre, évoquant jusqu'à 400 soldats russes tués. Selon le ministère russe de la Défense, 63 militaires ont été tués dans l'explosion de 4 missiles tirés par des systèmes HIMARS, une arme fournie par les États-Unis aux forces ukrainiennes. D'après le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov, ces missiles ont frappé un centre de déploiement provisoire de l'armée russe à Makivka, ville sous occupation russe, à l'est de la ville séparatiste de Donetsk. Les Russes disent avoir abattu 2 des 6 missiles tirés sur cette cible. L'annonce de cette frappe intervient après un nouvel an marqué par des bombardements russes sur Kiev et d'autres villes samedi, dimanche et lundi qui ont fait 5 morts et 50 de blessés. L'armée russe a déclaré dimanche poursuivre son offensive dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, où se concentre actuellement l'essentiel des combats.
Les États-Unis ne discutent pas avec la Corée du Sud de la possibilité d'organiser des exercices nucléaires conjoints, a déclaré lundi le président américain Joe Biden, contredisant des propos de son homologue sud-coréen Yoon Suk-yeol sur fond de tensions croissantes avec la Corée du Nord. Yoon Suk-yeol a évoqué dans un entretien au journal Chosun Ilbo, paru lundi, des discussions avec Washington sur la possibilité d'organiser des manœuvres conjointes, incluant les actifs nucléaires américains, interrogés par des journalistes journalistes à la Maison-Blanche sur l'existence des discussions actuelles entre les États-Unis et la Corée du Sud sur des exercices nucléaires conjoints, Joe Biden a répondu par la négative. Le ministre israélien de la Sécurité intérieure, Itamar Ben-Gvir, s'est rendu ce mardi sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, a rapporté la presse israélienne. Le chef de l'opposition et ancien premier ministre Yair Lapid avait prévenu qu'un tel déplacement d'Itamar Ben-Gvir pourrait déclencher des violences. Troisième lieu saint de l'islam, l'esplanade est vénérée par les juifs en tant que mont du temple. Seul le culte musulman y est autorisé. Et puis des dizaines de milliers de personnes ont défilé en flot continu dans la basilique Saint-Pierre ce lundi pour rendre un dernier hommage au pape émérite Benoît XVI dont la dépouille resterait exposée jusqu'à mercredi soir. Ses funérailles auront lieu jeudi sur la place Saint-Pierre et seront présidées par le pape François. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Michel Joseph.
La banque est sans aucun doute à petite échelle en Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'a affirmé le DG de Standard Bank pour l'Afrique de l'Ouest, Helmut Engelbrecht, dans un entretien accordé au journal Jeune Afrique. Il soutient que c'est pour cette raison qu'il a l'intention d'augmenter la taille de sa banque en Afrique de l'Ouest. La plus grande banque d'Afrique cible cette zone alors que d'autres s'en sont retirés ou y ont réduit leur présence. C'est le cas de BNP Paribas qui a vendu ses participations au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Tunisie, au Burkina Faso, au Mali et en Guinée dans le cadre d'une stratégie de retrait de l'Afrique subsaharienne. Les étrangers n'ont plus le droit d'acheter de logements au Canada à compter du 1er janvier 2023, et ce, pour les deux prochaines années. Cette interdiction est destinée à lutter contre la pénurie de maisons et appartements dans le pays. Des exceptions sont prévues pour les réfugiés ou les résidents permanents, et la loi ne s'applique qu'aux résidences en ville et pas aux structures touristiques. La grand-messe annuelle des technologies et de l'électronique s'ouvre jeudi à Las Vegas, ici aux États-Unis, et va durer jusqu'au 8 janvier 2023 sur plus de 18 hectares. Ce Consumer Electronics Show devrait être celui du retour en masse des exposants et investisseurs après deux éditions compromises par la pandémie. En 2021, il s'est tenu en ligne et en 2022, il y avait de grandes salles vides.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour à tous.
Pelé va être enterré ce mardi à Sao Paulo.
Une veillée funèbre a commencé depuis hier lundi dans le club de Santos FC où Pelé a écrit une bonne partie de sa légende. Ouverte au public pendant 24 heures, sans interruption, elle va s'achever ce mardi peu après le passage du président brésilien Lula da Silva. Ce dernier se rend ce matin dans la ville de Santos pour rendre un dernier hommage au footballeur de légende. Des milliers de Brésiliens, parfois émus en larmes, sont passés lundi devant le cercueil de Pelé, véritable monument national décédé le 29 décembre des suites d'un cancer. Ses obsèques se dérouleront après la veillée funèbre dans la stricte intimité familiale, après une procession dans la ville de Santos. Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, sera enterré lors d'une cérémonie privée dans le cimetière de la ville portuaire de Sao Paulo.
Justement, la FIFA va demander à tous ses pays membres de baptiser un stade au nom de Pelé.
C'est ce qu'a annoncé hier le président de la FIFA, Gianni Infantino, présent à Santos pour la veille funèbre du légendaire footballeur. Aux côtés d'autres dirigeants du football, il a été l'un des premiers à se recueillir hier près du cercueil de Pelé qui a été exposé au centre de la pelouse du stade où le Brésilien a écrit une partie de sa légende. Au siège de la FIFA à Genève, les drapeaux de tous les pays ont été mis en berne vendredi au lendemain du décès du triple champion du monde.
Cristiano Ronaldo sera présenté ce mardi aux supporters d'Al Nassr.
La star portugaise est arrivée hier lundi à Riyad. Cristiano Ronaldo s'est engagé avec Al Nassr pour un salaire estimé à 200 millions d'euros sur 2 ans et demi. Le quintuple lauréat du Ballon d'Or va être officiellement présenté au stade de Mossol Park de Riyad d'une capacité de 25 000 places. L'attaquant de 37 ans a quitté Manchester United avec fracas à la suite d'une interview au Vitriol fin novembre où il affirmait ne plus respecter son entraîneur Eric Ten Hag et s'en prenait aussi aux dirigeants du club. Au Mondial au Qatar, il a ensuite été éliminé en quart de finale avec le Portugal battu par le Maroc après avoir peu joué.
Page de sport VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Résurgence de la grippe aviaire au Niger. L'Organisation mondiale de la santé animale a signalé le mois passé la présence d'une souche hautement contagieuse de la maladie Atawa dans le sud du pays. Déjà, près de 5000 têtes de volailles ont été décimées. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
C'est le 17 décembre 2022 que le laboratoire central de l'élevage du Niger a confirmé ces cas du virus de la grippe aviaire du type H5N1 sur des prélèvements que la direction régionale de l'élevage de Tawa lui a envoyés pour analyse. Le foyer de la maladie est localisé dans un des villages du département de Bouza, région de Tawa. Idrissa Alassane, directeur régional de l'élevage.
Cette grippe a été confirmée suite à l'introduction de la volaille donc en provenance de la région des Andes et du Nigeria. C'est l'autre ONG donc qui a à la demande des populations ils ont acheté ou ils ont prévu d'acheter 11 000 sujets. Donc sur les 11 000, ils ont amené 4 920. Donc tous les 4 920 sujets en tout cas sont morts. Donc c'est en tout cas, la grippe aviaire, H5N1. Donc aujourd'hui, tous les villages, en tout cas d'intervention de ces ONG-là, leurs volailles sont contaminées. Et en plus de la grippe aviaire, il y a aussi un foyer de maladie de Newcastle, ouais, qu'on a trouvé en tout cas dans ce village. Mais sur ces sujets,
des dispositions rapides ont été prises selon le directeur régional, Bouza étant une des principales zones d'élevage de volailles du pays.
Nous sommes sous surveillance. Tous les agents du service de l'élevage du département sont mobilisés en tout cas pour la surveillance active de la maladie. Donc maintenant nous avons dit d'arrêter en tout cas les achats. Donc pour le moment, jusqu'à ce que vraiment la situation soit rétablie. Tous les animaux malades doivent être en tout cas abattus, donc brûlés, enfouis et maintenant désinfecter les locaux. Et d'autres mesures maintenant, c'est au niveau des autres villages frontaliers. Donc c'est de bloquer, comme nous avons dit, d'empêcher le mouvement d'entrée et de sortie, c'est-à-dire de la volaille. Et là, c'est une zone d'élevage de la volaille. Hein. Tout le monde reconnaît qu'il y a vraiment de la volaille sur le marché de Carrefour. Donc c'est ça qui nous dérange, parce que Carrefour, c'est un marché important. De volailles. Donc ça veut dire que maintenant, avant que la maladie ne soit déclenchée, donc c'est possible qu'il y a des sujets malades qui sont sortis hors de la commune. Donc tout ça, là, nous allons essayer de suivre ça.
La dernière épidémie de grippe aviaire au Niger remonte au mois de février 2022, où dans des foyers localisés à Dosso, Tillabéri et Niamey, la capitale, elle a causé la mort de plus de 90 000 volailles. Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Nigeria, des danseurs et musiciens participent à un carnaval à Lagos appelé Carnaval Fanti ou Kareta. Cet événement est une tradition annuelle se tenant généralement le jour de l'an. Les détails dans ce reportage de Kadri Taiwo. Le récit est de Rosine Monizero.
L'événement a été inspiré par d'anciens esclaves revenus du Brésil à Lagos au 19e siècle. Du nom de Isale Kowaro, l'événement est célébré chaque 1er janvier de l'année.
Le carnaval Fenty est très important pour nous, habitants de Lagos Island, parce que nous l'organisons toujours le 1er janvier de chaque nouvelle année. Il rassemble des personnes de l'extérieur du pays, de tout le pays. Elles sont venues ici et nous faisons le Fenty ensemble. Nous jouons et dansons, nous faisons tout ensemble et nous nous amusons.
Un événement qui rassemble les habitants de Lagos, mais aussi ceux de l'extérieur, et leur donne l'occasion de célébrer ensemble le début de l'année.
Le carnaval Fanti est très important pour nous, habitants de Lagos Island, parce que nous l'organisons toujours le 1er janvier de chaque année. Il rassemble des personnes de l'extérieur du pays, de tout le pays. Ils sont venus ici et nous faisons le Fanti ensemble. Nous jouons et dansons. Nous faisons tout ensemble et nous nous amusons.
Le carnaval Fanti, appelé encore Carreta, fait danser Lagos à l'image du carnaval brésilien. Un événement qui marque le début de l'année et dont le rythme de la danse et de la musique donne à ses participants le plaisir de bien démarrer l'année et de la vivre dans la joie.
Dans une tribune intitulée « Haïti se meurt », agissons maintenant, plusieurs dignitaires africains et du reste du monde ont appelé la communauté internationale à ne pas oublier Haïti, qui fait face à une violence infligée par les gangs qui y opèrent. Parmi les signataires, Macky Sall, président du Sénégal et de l'Union africaine, ainsi que Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, José Ramos Horta, président de la République démocratique du Timor-Leste. Pour en savoir davantage sur cet appel pour Haïti, Abdourahman Dia a joint à Rome son initiateur Adama Dieng, ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies.
Que dit notre tribune, quel en est l'objectif? Essentiellement que la première république noire, alors qu'elle célèbre le 219e anniversaire de son indépendance, à qui j'avais un courage si épique, est en grave difficulté, voire en danger. La rançon qu'Haïti a dû payer, la mauvaise gouvernance, la corruption, les occupations étrangères et la violence actuelle des gangs sont des facteurs qui ont tous contribué à faire d'Haïti un État défaillant.
Alors, en 2022, il y a eu 1400 morts et un millier d'enlèvements par les gangs. Et le gouvernement haïtien avait, début octobre, demandé une assistance internationale. Pourquoi, selon vous, il n'y a pas cette mobilisation au niveau international?
Vous savez, dans la tribune, nous reconnaissons les échecs passés. Nous avons également évoqué les risques, les périls et les mérites d'une intervention étrangère que demande par ailleurs l'actuel gouvernement haïtien non élu. Intervention dont le but serait d'affronter les gangs qui sont mieux armés que la police, puisqu'il n'y a plus d'armée haïtienne. Mais soyons clairs, nous savons que l'intervention, entre guillemets, est une question très sensible. Mais Haïti s'enfonce convulsivement dans le pandémonium. Et ce, depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, les choses vont de mal en pis. Haïti semble être en chute libre, le pays semble couler. Et c'est ce que nous soulignons dans la tribune. C'est notre cri quand on assiste à une noyade, un cri du cœur. La communauté internationale a-t-elle fait assez pour Haïti? Ma réponse est tout simplement non.
Alors, justement, parmi ces personnalités qui ont signé cette tribune, on voit beaucoup d'Africains. Pour vous, l'Afrique devrait s'impliquer davantage. On sait que l'Afrique est quand même le plus grand bloc à l'Assemblée générale des Nations Unies.
Mais absolument, et puis n'oublions pas, Haïti, c'est la première, je dirais, fille de l'Afrique à acquérir son indépendance au prix du sang, qui a défait l'armée napoléonienne, que Haïti, c'est la diaspora. Et c'est pourquoi l'Afrique et l'Union africaine ont exprimé leur solidarité. Et j'ose tout simplement espérer que cette communauté internationale va se mobiliser davantage.
C'était Adama Dieng, ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies. Ici aux États-Unis, de récentes enquêtes menées par le Pew Research Center montrent que le président Joe Biden jouit d'une grande confiance et est considéré comme un leader fort dans la plupart des pays interrogés. Ceci alors que la confiance en ce qui concerne le président russe Vladimir Poutine s'est effondrée depuis son invasion de l'Ukraine l'année dernière. Le reportage de Cindy Sen, correspondante diplomatique de la VOA à Washington, avec le récit d'Arzuma Compaoré.
Le président Joe Biden a rencontré le dirigeant chinois Xi Jinping et d'autres dirigeants mondiaux en Asie après les élections de mi-mandat aux États-Unis en novembre, disant qu'il s'est senti renforcé par un résultat meilleur que prévu pour son parti démocrate.
Je sais que j'arrive en force, mais je n'ai pas besoin de cela. Je connais Xi Jinping, j'ai passé plus de temps avec lui qu'avec n'importe quel autre dirigeant mondial. Je le connais bien, Il me connaît bien. Nous avons très peu de malentendus. Nous devons juste trouver où sont les lignes rouges et quelles sont les choses les plus importantes pour chacun d'entre nous au cours des deux prochaines années.
L'élection de mi-mandat ne s'est pas très bien passée pour les candidats républicains soutenus par l'ancien président Donald Trump. Les sondages montrent que la cote de popularité des États-Unis à l'étranger a également connu un brusque revirement après le passage de Trump à Biden à la Maison-Blanche. Une étude réalisée en juillet par le Pew Research Center a montré qu'en moyenne 58% des adultes de 18 pays déclare avoir confiance en Biden pour prendre les bonnes décisions en matière de relations internationales. Richard Wyke est le directeur de la recherche sur les questions mondiales au Pew. Il a déclaré à VOA via Skype qu'une majorité de personnes dans la plupart des pays interrogés préféraient nettement Biden à Trump.
Il obtient de meilleures notes en quelque sorte sur un plan personnel. Les gens le voient comme étant mieux qualifié que Trump et puis les gens aiment généralement ses politiques bien plus que celles de Trump. Vous savez, encore une fois, les accords sur le climat sont un bon exemple. Biden nous fait revenir dans les accords de Paris sur le climat. C'est quelque chose qui est très bien perçu.
Mais la popularité de M. Biden à l'étranger ne correspond pas à sa cote de popularité dans son pays, qui oscille autour de 40% selon la plupart des sondages. Les experts soulignent la polarisation du climat politique aux États-Unis et disent que de nombreux dirigeants sont plus appréciés à l'étranger que dans leur propre pays. Elizabeth Shackelford du Chicago Council on Global Affairs est d'accord pour dire que les gens dans la plupart des pays préfèrent l'approche de Biden.
Les gens sont toujours assez satisfaits du fait que Biden a ramené l'Amérique à la table de négociation et s'est engagé de manière plus active et respectueuse dans la communauté internationale et les affaires mondiales.
Les opinions favorables de Biden à l'étranger contrastent fortement avec celles du président russe Vladimir Poutine après son invasion de l'Ukraine. Une étude de Pew Research montre qu'une moyenne de seulement 9% a fait confiance à Poutine pour faire ce qu'il faut dans les affaires mondiales, comme l'explique Richard Wyke.
Lorsqu'il s'agit de la Russie, ce que nous voyons, ce sont des notes historiquement basses dans beaucoup, beaucoup de pays que nous avons étudiés. Des chiffres historiquement bas pour Poutine, une forte réaction du public contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Le président français Emmanuel Macron est l'un des nombreux dirigeants du monde qui ont remercié M. Biden d'avoir pris la tête du soutien vigoureux de l'OTAN et de l'Union européenne à l'Ukraine, affirmant que si on laissait la Russie agir sans contrôle, il n'y aurait plus de stabilité nulle part dans le monde aujourd'hui.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'installation du 118e Congrès des États-Unis. C'est un congrès divisé avec un Sénat contrôlé par les démocrates et une Chambre des représentants dirigée par les républicains. Alors qu'on est à 2 ans de la présidentielle de 2024, ce qui laisse entrevoir de chaudes empoignades pour les mois à venir dans ce contexte de pré-campagne. De son côté, le président Joe Biden a lancé une offensive de charme en direction de certains républicains modérés pour éviter le blocage de son agenda au Congrès. Comment se présente cette 118e législature? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou. Politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Michel Joseph, technique Kelvin Fowler. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes.